RFI TV5 Monde vous présente Afrique Presse, Denise Epoté-Durand.
Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Francis Laloupeau d'Africa numéro 1, Vincent Eugeux de L'Express. Une édition spéciale entièrement consacrée au Gabon qui connaît depuis mercredi une crise post-électorale. Malgré les appels au calme lancés par la communauté internationale, la tension n'est pas retombée à Libreville et dans certaines localités à l'intérieur du pays au lendemain de l'annonce des résultats proclamant Ali Bongo vainqueur de l'élection présidentielle. Bilan de la répression, 2 morts et de nombreux blessés et l'assignation au quartier général de Zamping de plusieurs leaders de l'opposition. Le point de blocage entre les deux camps qui revendiquent chacun la victoire du scrutin du 27 août dernier, le recomptage des bulletins de vote et en particulier ceux de la province du Haut-Ogooué, recomptage auquel s'oppose le pouvoir car, dit-il, cela n'est pas prévu par la loi. Francis Laloupeau, le point de discorde, c'est les voix dans la province du Haut-Ogooué, une province pourtant qui, sur le poids démographique, n'en représente que 2%. Comment la tendance a-t-elle pu être inversée alors que les premières estimations donnaient Zamping devant avec près de 60 000 voix?
Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, cette manipulation électorale s'est passée au grand jour. Presque en direct, je dirais, le monde entier a pu suivre ce qui se passait d'heure en heure, au jour le jour, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que les temps sont différents. Nous sommes dans des temps aujourd'hui, il y a un décalage extraordinaire entre la réalité actuelle et des pratiques qui sont des pratiques d'un autre âge. Ce qui s'est passé, c'est comme un film qui s'est déroulé devant le monde entier, de jour en jour, au moment où on attendait les résultats, ce qui a été attendu pour 72 heures, qui a été retardé, etc., pour des raisons d'ailleurs inconnues, parce que pour un pays qui compte 600 000 électeurs, on se demande, voilà, on s'est demandé pourquoi il fallait 4 jours, évidemment, 4 longs jours pour parvenir à proclamer des résultats. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'on parlera définitivement pour le Gabon, désormais, de l'ajustement électoral du Haut-Ogooué. C'est un phénomène qui se répète, où on amène à la dernière minute des voix, des procès-verbaux avec... je dirais des chiffres absolument ahurissants, c'est-à-dire que la population du Haut-Ogooué qui est pratiquement double, 95% de suffrage accordé au chef de l'État, au président sortant, 99%, pas de 100% de participation, c'est jamais vu nulle part. Et tout d'un coup, évidemment, cet ajustement inverse les résultats. Ça relève de la magie, je dirais. On est loin d'un phénomène, on est loin d'un processus électoral ordinaire.
Hassan Diop, fragilisé par la saignée qu'a connue le PDG ces derniers mois, Ali Bongo n'avait-il pas intérêt justement à verrouiller le processus électoral, puisque il est contrôlé de bout en bout par une administration qui est aux ordres?
Mais de toute façon, il faut d'abord se dire qu'en Afrique centrale, quand on a le pouvoir, on tient à le garder. Et c'est ce qui se passe. À chaque élection, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont les moyens de l'État, en général, ne perdent pas le pouvoir. Et pour revenir sur le cas du Haut-Ogooué, effectivement, variable d'ajustement en faveur du pouvoir, et ça depuis l'époque du père, c'est tout simplement parce que c'est la région, c'est le fief des Téké, c'est-à-dire le fief des Bongo. Et même aujourd'hui, malheureusement...
Le fief des Bongo, mais Ali Bongo ne parle pas le Téké.
Voilà, et il se trouve... Oui, il se trouve que même aujourd'hui, dans le Haut-Ogooué, il y a des gens qui protestent.
Bien sûr,
plusieurs barons ont appelé à voter en faveur de Zamping. Par ailleurs, des électeurs, une partie de la population locale s'insurge contre ces résultats, disant qu'on nous a fait voter sur le nom d'Ali Bongo. Or, ce n'est pas vrai. Donc, effectivement, cette absence, ce refus de publier les résultats bureau par bureau, sème le doute. Cette attitude est pour le moins suspecte en disant que oui, ce n'est pas inscrit dans le code électoral, oui, ce n'est pas inscrit dans la loi électorale. Mais si le pouvoir veut tout de même calmer le jeu, si le pouvoir veut éviter de voir déferler dans la rue effectivement des casseurs ou alors simplement des gens qui contestent de bonne foi la version qu'on leur donne sur le verdict de cette élection, il faut que ce pouvoir se montre transparent. Alors que M. Bongo a dit oui, cette élection s'est déroulée dans la paix et dans la transparence, et malheureusement les faits démentent ces allégations.
Vincent Eugeux.
Oui, écoutez, pour tordre le cou une fois pour toutes à cette légende d'arithmétique électorale, regardons le taux d'abstention à l'échelon national. Il est supérieur à 40%. Et par je ne sais quel prodige, il serait inférieur à 1% dans cette province. La messe est dite, n'allons pas plus loin. Et là, il y a une piste de réflexion qui me paraît capitale. C'est celle de l'anachronisme politique. Pour moi, dans la séquence politique africaine qu'on a vécue ces derniers mois, il y a deux incarnations, deux images de cet anachronisme. C'est la proclamation par un militaire en treillis à Ouagadougou, dans une sorte de réédition des putsch vintage des années 70 et 80, par un texte solennel, déclamé d'une manière grandiloquente et heurtée, etc. Première image d'anachronisme. Et puis, autre archaïsme, c'est exactement ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que, y compris dans nos rédactions, quand on discutait, les gens disaient « Mais non, c'est pas possible, il peut pas faire ça, etc. » Et là, je leur disais « J'adorerais que vous ayez raison. » Mais quelque chose me dit que dans l'invariant politique d'Afrique centrale, ce ne sera pas encore pour cette fois-ci la France.
Malheureusement, c'est l'anachronisme permanent. Ça s'est passé au Congo-Brazzaville, ça se passe en Angola, non loin. Ça va se passer sans doute en RDC, au Congo-Kinshasa. En Guinée équatoriale, c'est la même famille qui est au pouvoir depuis des lustres. Ne parlons pas du Cameroun. Disons que pour la région, ce n'est pas un anachronisme, malheureusement.
Il y a quand même comment expliquer justement ce syndrome propre à l'Afrique centrale qui n'a pas passé le cap du multipartisme de 1990.
On pourrait renvoyer ça, évidemment, c'est un vaste débat sur la culture politique des régimes qui sont en place et qui ont évidemment du mal à franchir le pas qui projetterait le pays vers évidemment les processus de démocratisation réels. Mais je voulais juste insister aussi un instant sur, je dirais, cet anachronisme qu'on évoquait à l'instant. Mais ce qui s'est passé au Gabon, cet ajustement électoral de Haut-Ogooué, je pense que ça révélait, c'est révélateur également de la panique qui s'est emparée du pouvoir. Je crois que le pouvoir gabonais croyait réellement, pensait réellement qu'il allait remporter les élections et avait parfaitement, totalement sous-estimé
l'ampleur, la capacité de l'opposition à se rassembler.
La capacité de l'opposition à se rassembler, à résister à la fraude électorale, et avait également sous-estimé, je dirais, l'ampleur du phénomène de rejet qui s'est développé au sein de la population depuis plusieurs années. Et donc, on a assisté, je dirais, à la dernière minute, à une sorte de forcing, avec cette fraude qui relève davantage de la fraude artisanale que de la technologie de la fraude telle qu'on a pu le voir sous d'autres cieux en Afrique centrale et ailleurs. Donc je pense que c'était ce qui s'est passé pour le Haut-Ogooué, ce qui s'est passé à la dernière minute, c'est une sorte de bricolage qui aujourd'hui évidemment rend la manipulation absolument grossière, manifeste au regard du monde entier. Et parce qu'il ne faut pas tergiverser, nous avons là affaire à une fraude flagrante, majeure et absolument caricaturale.
Hassan Diop, comment expliquer le silence des capitales africaines depuis...
Le silence, c'est que voilà, parce que ils seraient peut-être amenés, pour certains en tout cas, à balayer devant leur porte, hein, avant de critiquer Ali Bongo, ça c'est l'un des signes. Et pour revenir un peu sur place des politiques ou des situations politiques en Afrique centrale, il y a aussi, il me semble qu'il y a deux facteurs essentiels. Il y a le fait qu'il n'y a jamais eu véritablement une réelle émergence d'opposants. Il y en a eu au Cameroun, bien sûr, mais en général, ils finissent par entrer dans les rangs. Et on voit très bien que, par exemple, aujourd'hui, l'opposition au Gabon s'est incarnée par qui ?
Par des anciens du régime.
Des anciens du régime. Jean Ping, le président de l'Assemblée nationale, Casimir Oyemba, le président de l'Assemblée nationale Zuma Dama, qui a démissionné à la dernière minute avant de se présenter comme...
Miboto,
enfin, etc., etc. Donc ça, il me semble que c'est un facteur qui compte. C'est un facteur dont il faut tenir compte. Et puis, il y a l'autre facteur, c'est que l'Afrique centrale est beaucoup plus riche que l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a plus de tentations, non pas simplement pour une famille, voilà, non pas seulement pour une famille, mais également à un cercle élargi de rester au pouvoir, eh bien, pour procéder à une captation des richesses.
Moi, je vais juste rajouter à ce que vient de dire Hassan, c'est pour ça que je disais que c'était un vaste débat. Je crois que tout ça s'explique également par le rapport des acteurs politiques au pouvoir. Alors, c'est un rapport très particulier parce que ce qui s'est passé dans ces dernières années nous montre que le pouvoir est plus sacralisé en quelque sorte en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Il y a eu une désacralisation de la fonction présidentielle ou du pouvoir en Afrique de l'Ouest qui ne s'est pas produit.
C'est culturel, vous pensez ?
Je pense que c'est culturel parce que c'est lié intimement à l'histoire politique de ces pays depuis 56 ans. Quelles ont été les capacités de respiration démocratique dans ces pays-là depuis 56 ans ? Alors que, bon, des pays comme le Bénin, par exemple, à un moment donné, le Bénin qu'on cite aujourd'hui en exemple, a été quand même jusqu'à 1974 champion toute catégorie de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Donc il y a des révolutions qui ont été peut-être faites en Afrique de l'Ouest, qui ne sont pas produites forcément en Afrique centrale. Je pense que l'Afrique centrale est en retard par rapport à l'Afrique de l'Ouest de quelques révolutions.
Si le pétrole a conquis, et pas seulement dans les bas quartiers des capitales, le surnom de merde du diable ou de malédiction, ce n'est pas totalement par hasard. Parce qu'il y a quand même là un facteur de culture rentière et patrimoniale. Donc qui a un impact effectivement dans cette résistance à l'évidence de la modernité démocratique. Mettons-nous 10 secondes dans la peau d'un jeune Gabonais, d'une jeune Gabonaise, et imaginons l'alternative qui se présentait à lui ou à elle. C'était soit la continuation par d'autres moyens, pas nécessairement les plus brillants d'ailleurs, d'une dynastie à bout de souffle, soit une transition dans le meilleur des cas qui aurait été incarnée par quelqu'un qui a changé de bord de la rivière, changé de rive sur le tard, et peut-être en partie parce que il était très dépité d'avoir pas été soutenu dans sa course au second mandat à la tête de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping bien sûr. Donc je veux dire, voilà l'alternative. Et il y a un écart tel, un grand écart qu'on risque la déchirure musculaire entre les vagues de fond qui, certes, brouillonnent, animent toutes les sociétés civiles d'Afrique, et puis cette résistance d'un corps d'État, mais dont on sent qu'il se fissure. À mon sens, d'ailleurs, pour être tout à fait clair, le souci principal pour Ali Bongo, ce n'est pas tant de savoir s'il va commencer son mandat que de savoir s'il va le finir. Parce que il y a des données sociales qui, elles, ne vont pas être effacées à l'ardoise magique par le trucage des chiffres.
Alors, chacun accuse l'autre d'être soutenu par une légion étrangère. Hein. Oui. Ali Bongo parle, dans le camp d'Ali Bongo, on parle des Ivoiriens qui soutiendraient Jean Ping. Mais dans le camp de Jean Ping, on parle également des Rwandais qui soutiendraient Ali Bongo.
Oui, alors, à chaque fois, évidemment, il y a des rumeurs.
Un tox ou une rumeur.
Il faut aussi dire que dans les deux camps, on manie l'intox à merveille. Bien dans le camp de l'opposition, sur le bilan des victimes, sur les tirs, les bombardements, etc., etc., même s'il y a une part de vérité. D'ailleurs, on s'interroge sur les raisons pour lesquelles, finalement, cette opposition se livre aussi à cette désinformation, alors que ça joue contre elle. Je pense que toutes ces informations, toutes ces rumeurs méritent vérification. Ça doit être coupé. Mais pour revenir au niveau, je dirais, des soutiens, par exemple, on parle beaucoup de la France. Une chose qui est avérée...
Paris a-t-il lâché Ali Bongo? Voilà,
une chose est avérée, en 2009, il y avait le soutien de Nicolas Sarkozy.
Oui, et ensuite, plusieurs ministres l'ont d'ailleurs reconnu.
Voilà, et donc, il était chef de l'État, et donc ensuite, de nombreux membres, y compris de la droite, avaient dit que ces élections avaient été truquées. Récemment encore, Manuel Valls, actuel Premier ministre de gauche, a fait un lapsus sur le caractère douteux donc,
de
la première élection d'Ali Bongo. Alors, cette fois, le soutien est beaucoup moins avéré. En tous les cas, c'est plutôt l'indifférence. J'ai l'impression que François Hollande ne veut pas prendre de coups, c'est-à-dire ne veut pas avoir un retour de bâton, c'est-à-dire qu'effectivement que les événements dérapent, qu'il y ait des morts, parce que dans le camp président, le camp d'Ali Bongo, on semble déterminé. Hein, l'ordre va revenir, l'ordre sera rétabli, etc., etc. Et donc, voilà, on joue dans les coulisses, on fait intervenir l'ambassadeur, on passe par le relais du Conseil de sécurité, mais je doute que tout ça ait une véritable portée sur
Francis Laloupou, la politique africaine de la France a-t-elle changé? Parce qu'on l'a vu récemment dans le cas de l'élection au Bénin, le candidat parrainé par la France a été battu.
Oui, la politique a changé parce que cette politique est devenue, je dirais, moins linéaire. C'est beaucoup plus complexe, évidemment. Je pense que vis-à-vis du Gabon, on est peut-être en train d'appliquer en France le principe de ni ingérence ni indifférence. Mmh. Et finalement, le communiqué, enfin, disons, l'adresse au Gabon faite par Jean-Marc Ayrault.
Le Parti Socialiste.
Le Parti Socialiste. A commis un communiqué dont il doit tout se passer,
plus loin,
en fait.
Hein.
Mais je pense que la voix officielle de la France aujourd'hui s'associe pleinement à la voix de l'Union européenne et à celle des États-Unis. C'est-à-dire que ce n'est plus la France qui avance isolément dans un face-à-face entre elle et le Gabon. C'est la France et la communauté internationale qui s'expriment vis-à-vis du Gabon. C'est tout à fait différent. On est, disons, assez loin quand même, je dirais, des schémas classiques et traditionnels de ce qu'on appelle la France-Afrique.
Vincent Engel, l'Union européenne a été la première à dénoncer le manque de transparence. Aujourd'hui, elle est accusée par le pouvoir d'avoir outrepassé ses droits.
Ah, ça, c'est la martingale immanquable. C'est-à-dire qu'il faut d'abord souligner la qualité du rapport intermédiaire qui a été produit par la mission d'observation. qui est très argumentée, très factuelle. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça en termes de politique et de géostratégie? Eh bien, pas grand-chose. Parce que vous voyez d'ailleurs, dans le lexique qui apparaît dans ces communiqués, noble principe, certes, transparence, vérité des chiffres, etc., etc. Mais on retrouve les communiqués standards, comme si on s'installait déjà dans l'idée que le rapport de force in situ va contraindre de s'accommoder. Mais sur la France, quand même, il demeure une ambiguïté. Au fond, Ali Bongo bénéficie, comme un Idriss Déby au Tchad, comme un Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazza, d'une rente de situation géopolitique.
Il y a une la base priorité militaire française à Libreville.
La priorité absolue de la France, et en tout cas de la fin du mandat de François Hollande, qui délègue cette partie de l'Afrique à Jean-Yves Le Drian, son ministre de la Défense, c'est la lutte contre le djihadisme. Donc tout ce qui apparaît si fallacieuse que soit cette appréciation comme un pôle de stabilité qui, en plus, pour des raisons logistiques, est un relais au déploiement Barkhane, doit être préservé. Donc on va énoncer les principes, on va déplorer, mais je serais très surpris que la France enfourche le cheval de la vérité du vote. D'autant plus que, encore une fois, François Hollande a bien d'autres soucis d'ici la fin de son mandat et qu'il va certainement pas ouvrir un front de cette nature.
Certaines différences, c'est peut-être une bonne nouvelle, finalement, cette indifférence de la France. Je dirais cette distance.
Oui, c'est ce que réclament beaucoup d'Africains.
Mais exactement, oui, c'est ça.
Voilà. Et puis, il y a peut-être aussi une certaine lassitude, en vérité.
Et pour faire le parallèle, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ça a été d'abord l'affaire des Burkinabés. Oui. Et peut-être que, de plus en plus, on installe un logiciel qui est différent, qui consiste à dire que ce sont les populations elles-mêmes
qui doivent prendre en main leur destin.
Des issues des crises, fut-elles évidemment tragiques.
Hassan Diop, la campagne ayant tourné autour de la validation de l'acte de naissance d'Ali Bongo, elle a quelque peu occulté à la fois son bilan et le programme des candidats.
Ah mais totalement, totalement. Alors ensuite, ça a été des discours haineux de part et d'autre d'ailleurs, parce que Jean Ping s'est vu également affublé des pires noms, enfin, etc.
Le chinois, les yeux bridés.
Enfin, les yeux bridés, des choses absolument inqualifiables, en plus dans la presse d'État, etc., dans des éditoriaux. Bon, et c'est vrai que ça a tout occulté. Mais je crois que l'obsession, y compris d'ailleurs des hommes politiques qui veulent exister après la mort d'Omar Bongo, et c'est le cas de Jean Ping, c'est aussi de tourner, au fond, la page de ce pouvoir dynastique. Voilà. Je crois que le gros problème aujourd'hui, c'est que aux yeux de beaucoup de Gabonais, tenez-vous bien, un Gabonais qui a 50 ans aujourd'hui n'aura connu qu'un seul régime, le régime des Bongo. Et c'est quand même une anomalie dès lors où on n'est pas en monarchie. On sait bien que Ali Bongo est admiratif, par exemple, du roi du Maroc. Et c'est vrai
qui est son meilleur ami.
Qui est son meilleur ami, dit-on. Et c'est vrai que le Gabon, quelque part, ça s'apparente à une monarchie tropicale de facto. Parce que ça fait 50 ans qu'on a le même pouvoir, les mêmes noms. Et je crois que même ceux qui ont appartenu à l'époque au régime d'Omar Bongo, aujourd'hui, ils veulent tourner cette page. Ils veulent un peu plus d'oxygène.
Mais le fantasme monarchique a tellement existé que des acteurs présents à l'époque m'ont raconté que lors d'une visite à Jacques Chirac, qui était alors le locataire de l'Élysée, Bongo père, accompagné pour le coup du jeune Bongo fils, a testé auprès de son ami Jacques, l'idée d'une sorte de royauté moderne, absolument, ou modernisée, absolument, et adossée évidemment à des invariants culturels subsahariens.
C'est ça. En un mot, Francis Alupo, avant de conclure, une médiation est-elle possible pour mettre fin à l'embrasement du Gabon?
D'où viendrait cette médiation? Parce que vous avez quand même noté le silence assourdissant des chefs d'État africains.
C'est absolument, de l'Union africaine.
C'est absolument ahurissant. L'Union africaine,
à la hauteur de sa légende,
a publié ce vendredi un communiqué absolument laconique, où elle condamne les violences, mais sans jamais se prononcer, évidemment, sur l'origine, la source et la cause de ces violences. On a entendu l'Union européenne, on a entendu les États-Unis, et rien, aucun son venant des États africains, aucune opinion. Je pense que c'est une des leçons qu'on retiendra de cette tragédie en cours au Gabon.
Voilà, c'est le mot de la fin. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Vincent Jeux de L'Express et à Francis Lalupo d'Africa numéro 1. Vous pouvez retrouver et revoir les émissions sur les sites de RFI, sur les sites de RFI de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.